Alléluia. Merci au Seigneur pour sa présence. Et avant vraiment d'aller dans le message, je sentais vraiment une grâce particulière de Dieu. Il a été question de la bonté de Dieu, de la bonté qui venait sur nous. Il y a eu différentes paroles qui ont été données. Et je sentais vraiment une grâce particulière. Je voyais comme les mains percées de Jésus qui étaient là. Il a payé. Il a déjà tout payé pour toi. Ne sois pas étonné d'être touché même dans ta santé. J'avais cette pensée des reins. Si quelqu'un a des problèmes au niveau des reins, notamment au niveau de ton sang, sois touché maintenant et guéri au nom de Jésus. Pour que ton sang soit filtré correctement de nouveau. Que tu sois ici dans cette pièce ou que tu écoutes le message sur notre site après coup indifféré. Que la puissance de Dieu te touche et guérisse tes reins. Ou toute autre aussi maladie dans l'immunité, dans le sang. Dans différentes choses, soit touché, il est là. Et dans sa bonté, il y a des bénédictions, il y a des faveurs, il y a aussi la guérison. Et on veut saisir ces choses-là au nom de Jésus. Amen. Merci à toute l'équipe de louanges de nous avoir amenés dans la présence de Dieu. Je propose qu'on les applaudisse. Merci beaucoup, c'est top. Et aujourd'hui, c'est notre dernier culte avant la pause d'été. Pour beaucoup, ça va peut-être correspondre peut-être à un temps de vacances, ou bien si vous n'avez plus d'enfants en âge scolaire, vous avez déjà pris vos vacances, ou bien ça sera plus tard. Mais dans tous les cas, souvent quand même, cette période d'été, c'est quand même un petit peu un moment où on lève un peu le pied d'une façon ou d'une autre. Et je pense que vous êtes quand même assez d'accord ici pour dire, quelle que soit votre situation, qu'on aime tous quand même les vacances. Et vacances, ça veut souvent dire voyage, découverte, bon repas. Et souvent, même si souvent on a hâte des vacances, ce n'est pas juste pour attendre 2 heures dans une file devant un monument. Si on a hâte des vacances, c'est parce qu'on peut enfin se reposer. En théorie, en tout cas. Mais souvent, on compte les jours et on rêve de plage ou de montagne ou bien juste de rien faire chez soi. Et puis on se dit toujours, ah, enfin, quand j'aurai les vacances, je pourrai me reposer. Mais parfois, on profite tellement à fond parce qu'on a les vacances pour faire un de ces programmes, visiter chaque chose, qu'en fait, des fois, on est plus crevé après qu'avant. Ça dépend ce qu'on fait. Vous avez peut-être déjà entendu ce genre de remarque. Ah, moi, je viens de partir une semaine en vacances, il me faut 2 semaines pour m'en remettre maintenant. Mais c'est là qu'on se rend compte qu'il y a des fois une différence entre ne rien faire ou bien être un peu en vacances ou être vraiment reposé. Et c'est de ça que j'ai envie de parler ce matin, c'est du repos. Et c'est le titre de mon message ce matin, c'est vraiment, c'est « Recharge en cours ». Alors, on n'est pas connecté. Voilà, ça va venir. C'est « Recharge en cours ». C'est ces moments de repos où on recharge nos batteries. Et on connaît tous le repos. On le cherche, on le veut, on en a besoin. Et surtout, on en parle souvent quand on en manque. Mais vous savez combien d'heures on dort par mois? C'est quand même assez énorme. Si vous dormez environ 8 heures par jour, ça vous fait 243 heures par mois. Ça fait 2900 heures par an que vous dormez. Si vous êtes plutôt de ceux qui dorment moins, ou dites non, non, mais moi je dors que 6 heures par nuit, ça fait quand même 180 heures par mois et puis 2200 par année. Hein. Et vous savez qu'en fait, finalement, si on calcule un petit peu, ben on dort quand même plus que ce qu'on travaille. Même si vous avez l'impression de passer votre vie à travailler. Si tu travailles même de façon un peu plus que d'habitude, 9 heures par jour, en général c'est sur 5 jours, ça fait 45 heures. Mais si tu fais 7 nuits à 8 heures, ça fait 56 heures, donc tu dors plus. Et même si tu dis, ah, moi je dors que 7 heures, ça fait 49 heures. Donc souvent on dort presque, je pense globalement, on dort plus presque que ce qu'on travaille. C'est dingue. Donc en moyenne, on dort un tiers de notre vie. Ça paraît énorme, mais c'est une réalité. Et je crois que c'est si Dieu a prévu comme ça que notre corps passe autant de temps à rien faire, ou du moins à se reposer, c'est qu'il y a une raison. Mais imagine si tu as 30 ans, bah tu as dormi 10 ans. Si tu es ado, si on compte ton enfance et puis tes grasses matinées d'ado, bah tu as dormi la moitié de ta vie, quoi. Tout ça pour dire que le repos, ce n'est pas juste un sujet d'avant-vacances, mais c'est quelque chose d'immense, c'est une immense part dans notre vie, qu'on le vive bien ou pas. Hein. Et je sentais vraiment que c'était juste de parler de ça ce matin, parce que le repos, ce n'est pas juste une fatalité, voilà, on est fait comme ça, mais il y a une intention de Dieu derrière. Et petit clin d'œil ce matin, si la personne assise à côté de toi, elle commence à bâiller pendant le message, il peut y avoir deux raisons différentes. Soit c'est que mon message il est ennuyeux, Soit elle commence à mettre en pratique ce message sur le repos. En tout cas, tu auras aujourd'hui une excuse. Si tu t'endors pendant le message, au moins tu peux dire que voilà, tu ne t'attends pas pour mettre en pratique. Mais je prie quand même que tu sois touché par un esprit de réveil. Mais il y a quelque chose à découvrir sur le repos, et moi j'ai bien envie de le découvrir en étant réveillé quand même. Mais je suis convaincu que le repos, ce n'est pas juste de s'arrêter et puis de rien faire. Je suis convaincu que c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Parce que le repos, ce n'est pas juste 4-5 semaines par an, ou quelques heures par nuit, ou bien un ou deux jours par semaine, le week-end. Mais c'est un état d'esprit, c'est d'avoir la tête au ciel. Aujourd'hui, on a plus de peine à se connaître. Voilà. C'est d'avoir la tête au ciel malgré les pieds qui doivent courir dans notre style de vie de notre époque. Et je parlais dans mon dernier message à Pentecôte des 7 esprits de Dieu, notamment l'esprit de conseil, qui nous permet de savoir comment vivre dans le concret les choses qui sont au ciel. Et la clé, je crois, dans notre vie de tous les jours, ce n'est pas juste de vivre le terre-à-terre, pris dans le courant parfois effréné de la vie, mais c'est de vivre les deux simultanément, de rester concret où on vit, quand on vit quand même des moments spirituels forts, quand même de rester concret, mais aussi de rester cette tête au ciel connectée à Dieu, alors qu'on doit courir toute notre vie. Parce que sinon, l'idée, ce n'est pas juste de bien vivre juste quelques semaines par an, parce qu'on a les vacances. Mais je crois que c'est ça, vraiment le vrai repos, c'est quand on est connecté à Dieu et puis qu'on respire le ciel. Puis Claude, tu peux bouger, je pense que c'est parce qu'il y a quelqu'un juste devant. Merci. Et qu'on respire le ciel même quand il faut courir sur terre. Et mon premier point, c'est qu'à la base, là ça a marché, c'est qu'à la base, le repos, c'est vraiment une idée de Dieu. Ça, c'est la première chose qu'on veut voir ce matin. Dans Genèse 2:2, il est mis que le septième jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le septième jour. Donc ce principe du repos, il a été institué dès le départ. C'est une intention initiale de Dieu. Vraiment, c'est un principe de base qui est même avant l'ancienne alliance, qui est avant la loi. C'est quelque chose qui est vraiment dans le cœur profond de Dieu. C'est un des principes, comme il y en a quelques-uns, qui sont là dès le départ. Comme l'amitié qu'il veut avoir avec chaque être humain, comme la bénédiction, comme la dîme, comme l'adoration, comme le repos. C'est des choses qui sont avant la loi. C'est dès le début, quand Dieu a créé l'être humain, ça en faisait partie. C'est pas la loi ou quelque chose d'ancien où on est passé maintenant à autre chose. C'est dans le cœur même de Dieu. Comme valeur qui amène la bénédiction. Et il est mis que le septième jour de la création, Dieu se reposa. Et ce mot qu'on utilise, qui est traduit par « se reposa » dans la Bible, c'est justement le mot « Shabbat », « Sabbat », qui veut dire « cesser », « se reposer ». Alors après avoir travaillé, accompli les différentes étapes de la création, il a cessé, il s'est arrêté. C'est ce que veut dire « Sabbat », « Shabbat ». Pas juste repos, mais aussi s'arrêter. Et entre parenthèses, c'est intéressant de voir, c'est que juste avant ça, il est mis, 2 versets avant, dans Genèse 1, 31, « Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon. » Donc Dieu, il ne s'est pas reposé parce qu'il était crevé, parce qu'il était fatigué, parce qu'il était lassé, parce qu'il en avait marre, mais parce qu'il a constaté que ce qu'il avait fait était bon et même très bon. Il aime ce qui est bien fait. Dieu est dans l'excellence, mais il n'est pas dans la performance. Et je vais m'arrêter juste un petit coup là-dessus, c'est un peu une parenthèse dans notre message, mais qui est fondamentale pour bien vivre le repos, selon Dieu. Parce que l'excellence, c'est bien faire les choses. C'est de la meilleure manière, avec du bon matériel, avec des bonnes personnes, et puis on reconnaît que c'est bon. Mais la performance, en fait, elle te pousse. La performance, elle te pousse que c'est jamais assez bon. C'est jamais assez bon. Tu peux passer, voilà. C'est jamais assez bon, jamais assez tant en qualité qu'en quantité. Ça te pousse à jamais t'arrêter, en fait. C'est un état d'esprit de performance, en fait. C'est vraiment comme un obstacle pour le repos. Et je me souviens, quand je faisais mes travaux de recherche à l'école biblique, à un moment donné, tu travailles, tu recherches, puis à un moment donné, tu dois te dire, ben voilà, j'arrête ici, je vais le rendre. C'est bon, c'est très bon. Je le donne. Si vous avez fait un mémoire ou si vous n'êtes pas juste pris puis que vous bossez jusqu'à 23h59 pour l'envoyer par mail ou à la deadline, mais que vous êtes organisé un petit peu à l'avance, à un moment donné, tu dois comme arrêter puis dire c'est bon, je le donne maintenant. C'est bon, on aimerait toujours continuer. Il y a toujours un truc à améliorer, mais à un moment donné, ben, il faut s'arrêter, se dire ben, c'est bon, voilà, je le passe. Et je crois que l'esprit de la performance, quelque part, c'est un poison qui pousse à jamais s'arrêter dans tous les domaines de la vie. Et je pense qu'en fait, c'est de l'orgueil, c'est l'orgueil qui est un obstacle à s'arrêter de vouloir toujours plus. Et c'est une barrière à la reconnaissance, à être satisfait de ce qui a été fait, et puis de pouvoir célébrer l'accomplissement du but. C'est réaliser ça, pour moi, c'est une clé pour vivre le repos. Parce que sinon, on ne s'arrête jamais. C'est jamais assez bien dans tous les domaines de la vie. Et le septième jour, il est mis que Dieu s'arrête. Il ne cherche pas à produire plus, par orgueil ou réussite, je ne sais pas. Il crée selon un dessein précis, il met une limite et puis il valide. Il met une limite, il valide à ce qu'il fait. Et il dit même que c'est très bon. Et l'excellence nous amène à faire très bien les choses, et ça inclut, je crois, vraiment le repos et puis la reconnaissance. Alors que la performance, c'est comme une course où il n'y a jamais de ligne d'arrivée. C'est jamais fini. Toujours mieux, toujours plus, sans jamais savourer ou valider ce qui a été fait. Et c'est Bill Johnson, qui est pasteur à Bethel, qui a dit la chose suivante. L'excellence, ce n'est pas le perfectionnisme. L'excellence, c'est donner le meilleur de moi-même avec un cœur d'adoration. Et moi, je dirais même la chose suivante, personnellement, c'est que la performance, elle recherche indirectement, on ne le sait peut-être pas, mais l'approbation des autres, alors que l'excellence, c'est une offrande pour Dieu. On fait bien les choses de façon excellente, mais pour lui. Et je crois que vivre le repos, le sabbat, dans le sens qu'on vient de le lire, c'est-à-dire pas dans un principe de loi, mais de s'arrêter dans la reconnaissance, c'est un acte d'humilité qui laisse notre orgueil de côté, qui veut toujours faire mieux, sans jamais s'arrêter. Ce désir de performer, de perfectionnisme, on le laisse de côté pour finalement se tourner vers Dieu et lui rendre gloire de ce qui a été fait. Et à ce propos, le verset suivant de Genèse 2, 3, il est mis que Dieu bénit le septième jour et il en fit un jour saint où il le sanctifia. Parce que ce jour-là, il se reposa de toute activité, de tout ce qu'il avait créé. Waouh ! Dieu, il bénit ce repos. Pas juste la journée du calendrier, je pense, mais ce moment de sabbat, ce principe de s'arrêter et de se reposer dans la reconnaissance, c'est béni de Dieu. Il y a une bénédiction derrière. Et qu'est-ce que veut dire bénir ? Bon, on le sait, c'est aussi dire du bien, mais dans ce sens-là, quand il s'agit de Dieu, c'est pas seulement prononcer des paroles bienveillantes, mais c'est rendre prospère, fort, heureux. Et d'ailleurs, ce mot bénir, barak, veut dire bénir, mais aussi s'agenouiller, louer, bénir. Donc c'est non seulement être reconnaissant de ce qui a été accompli, mais c'est plier le genou, se tourner vers Dieu et adorer. Et il est mis que Dieu bénit ce jour et le sanctifia. Et sanctifier, ça veut dire mettre à part. Donc ce n'est pas juste un arrêt d'activité, mais il y a un but, il est tourné vers Dieu. C'est un repos qui est tourné vers Dieu. Et en définitive, le vrai repos, c'est un principe qui est super fort. C'est lâcher ses ambitions et son perfectionnisme, c'est s'arrêter en étant reconnaissant, et c'est se tourner vers Dieu dans l'adoration. Et ça pose, moi je trouve, un sacré fondement sur ce qu'est vraiment le repos. C'est plus qu'une pause. C'est la capacité de s'arrêter, de détourner nos yeux un moment de l'objectif, des choses à faire, à améliorer, et puis de fixer nos yeux vers celui qui est au-dessus de tout. Un peu ce qu'on a pu vivre maintenant dans l'adoration. Mais un état d'esprit qui est tout le temps là, pas juste parce qu'on peut s'arrêter un jour ou parce qu'on a 2 semaines ou 3 de vacances, mais on a ses yeux fixés, la tête vraiment au ciel, même s'il faut courir tout le long. Waouh ! Et c'est comme ça qu'on est vraiment ressourcé. Et qu'on n'est pas simplement autant crevé qu'avant, parce qu'on peut, des fois on peut se reposer, mais on est toujours autant fatigué après. Mais c'est comme ça qu'on est vraiment ressourcé. Et ce qui est puissant, c'est que Dieu bénit ce jour, il bénit ce principe. Et comme on a vu, bénir, c'est rendre prospère, c'est rendre heureux. Faire un jour off, se reposer, ce n'est pas du temps perdu. En fait, Dieu, il bénit le repos, il le rend prospère, il le bénit au-delà de si on ne s'était pas arrêté. C'est vraiment un principe de Dieu. C'est d'ailleurs pareil, parce qu'on peut penser qu'on perd du temps en se reposant. C'est pareil pour l'argent, on pense perdre l'argent en rendant la part à Dieu, mais non, il bénit, il rend prospère, il amène une bénédiction, une faveur qu'on en ait, comme si on en avait plus qu'avant. C'est la même chose pour les amis de Daniel, qui se privent de bons mets, qui étaient voués à l'idolâtrie. On pourrait se dire, ils vont être moins forts que les autres, qui mangent bien. Au contraire, il y a une bénédiction dans ce principe de rester fidèle, où il donne ça au Seigneur. ils s'en privent, ils ont une meilleure forme au final. Alors qu'on peut penser des fois perdre des choses, mais au final on y gagne. On y gagne si on vit selon les valeurs de Dieu. Et on peut penser des fois que le temps de repos est un temps perdu à rien faire. Je ne parle peut-être pas des vacances parce qu'on l'attend tous, mais d'autres moments où peut-être on veut se reposer. Et pourtant Dieu bénit, Dieu le bénit. Bien évidemment, il bénit aussi le travail, on pourrait faire un message entier. Il y a plein de versets bibliques qui en parlent, mais ce n'est pas mon sujet ce matin. Et il bénit le repos qui est vécu dans la reconnaissance, le cœur d'adoration, c'est-à-dire ce cœur connecté à Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il bénit le fait l'oisiveté, la fainéantise, qu'on ne fait rien. Vous comprenez la différence? D'ailleurs, le réformateur hyper connu, le plus connu, Martin Luther, enfin le plus connu, je ne vais pas froisser Calvin ou d'autres, mais en tout cas très connu, Luther a dit « J'ai tant de choses à faire aujourd'hui que je passerai les 3 premières heures en prière. » J'ai tellement de choses à faire aujourd'hui que je vais déjà prier 3 heures. Alors je ne vous dis pas ce matin, ce n'est pas mon message, « Ah, maintenant il faut prier 3 heures. » Mais c'est le principe qu'il y a derrière que j'ai retenu. C'est que plus il avait à faire, plus il allait prier avant. Et en guillemets, perdre du temps, ce n'est pas perdre du temps, mais investir du temps dans la prière. Et moi, je suis convaincu. Et combien de fois, quand je vois dans ma semaine le nombre d'entretiens, de séances, de rendez-vous et une to-do list longue comme quelques bras, je me dis, mais prends ce temps, repose-toi, prends du temps avec Dieu. Et on y gagne. Perdre du temps, investir du temps de qualité en étant connecté à Dieu, il y a une bénédiction sur ce repos qui fait que tu gagnes sur tout ce que tu as à faire après. Le repos avec Dieu, c'est jamais du temps perdu, mais c'est du temps gagné. Et comme deuxième point, maintenant qu'on a vu un peu ce fondement voulu par Dieu, j'aimerais qu'on puisse parler de la différence entre repos et repos. Vous voyez la différence? Mais j'aimerais dire plutôt entre le repos par défaut, c'est-à-dire le repos humain, le repos parce qu'on est fatigué, et puis le repos en Dieu. Et il y a une grande différence. Et c'est essentiel, et ce n'est pas par hasard que ça brûle dans mon cœur maintenant, à l'aube quand même, des vacances, même si pas tout le monde en a maintenant à cette période, mais à l'aube de ce moment d'été, ce n'est pas par hasard. Parce que je pense qu'il y a différentes manières de vivre ces moments. Et j'aimerais qu'on prenne l'exemple d'Élie, qui a justement vécu ces deux repos différents. Le repos de la fatigue, et puis le repos en Dieu. J'y reviendrai plus en détail, mais on voit dans 1 Roi 19 que Élie va se reposer. Il part à l'écart, loin de tout, se reposer sous un genêt. C'est pas très beau comme arbuste, c'est comme ça, on en a un dans notre jardin derrière, mais il est quand même allé se reposer sous un genêt. Et a priori, on se dit, ben, c'est une pause bien méritée. Après ce qu'il a vécu avant, on y reviendra, il méritait bien un jour off, des vacances, un congé, enfin du repos. C'est ce que j'appelle le repos humain par défaut. On a travaillé toute la semaine, à un moment donné, il ne faut plus trop t'en demander. Tu as juste envie de rien faire. Si on a beaucoup fait, on est tous comme ça. C'est bon, j'ai donné, je me repose là, ce n'est pas le moment de me demander de faire encore quelque chose. Donc c'est ce que j'appelle le repos un peu par défaut. Des fois, ce n'est même pas un plaisir de se reposer. Ce n'est même pas de la reconnaissance. Ce n'est même pas profiter d'un congé et de ne pas travailler. Tu es juste off, tu es claqué. Tu débranches la prise, quoi. Ce n'est pas faux, c'est justifié, c'est normal hein, qu'on se repose. Mais pour Élie, ce n'est pas qu'un peu. Il est tellement épuisé, il est à bout, qu'il part à l'écart. Il va dans le désert dormir sous un genêt. Sous un arbuste. Et il faut savoir qu'il vient de remporter un immense combat spirituel. Je ne vais pas maintenant rentrer dans tous les détails, mais ce n'est pas le but de ce matin, mais dans 1 Roi 18, on vit qu'il y a eu un énorme combat spirituel, une confrontation de puissance entre lui et 450 faux prophètes, et il les met au défi que le feu de Dieu vienne sur un holocauste et sur un autel, et lui, il va aussi faire un autel, et là où le feu va venir, c'est là qu'il y aura vraiment le vrai Dieu. Donc c'est un pas de foi intense, vraiment fort, et il sait qu'il risque sa vie aussi par rapport à ça, c'est un face-à-face. Et là, à un moment donné, Dieu va envoyer vraiment son feu, et c'est un feu du ciel spectaculaire. Il est même dit au verset 38, le feu de l'Éternel tomba, il brûla l'holocauste, le bois, les pierres. Le feu, il a brûlé les pierres et la terre, et il avala l'eau qui était dans le fossé, parce qu'il avait arrosé pour que au moins les sceptiques ne disent pas que c'était une étincelle ou le soleil. Une immense victoire, c'est une démonstration de puissance qu'il a vécue. Et il est dit, le verset suivant, que quand les gens ont vu ça, tous les membres du peuple tombèrent le visage contre terre et ils ont dit, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Mais en fait, c'est le réveil. c'est ce qu'on voudrait, une démonstration de la puissance de Dieu. Puis tous les gens qui disent « Ah ben c'est lui le vrai Dieu, c'est lui le vrai Dieu !» Mais c'est ce qui s'est passé. C'est une démonstration de puissance. Mais il y a eu une intensité dans ce qu'il a dû vivre là. Et cette journée de combat, elle finit, elle n'est pas finie pour lui. Il va encore éradiquer ses faux prophètes. Il est même dit qu'il va les égorger, ses 450 prophètes. Imaginez les courbatures aux mains après, quand même. Mais en plus de ça, il y a une énorme sécheresse depuis 3 ans et demi qu'il n'y a plus de pluie. Et Élie va s'investir à fond en donnant une parole prophétique. Il va risquer sa vie en disant au roi, tu peux te dépêcher maintenant, mange, fais la fête, déjà parce que la pluie, elle arrive. Alors qu'il n'en sait rien, il sait que s'il dit à côté, c'est lui qui va se faire... Qui va mourir. Mais il prophétise ces choses et ça se passe. Et là, il est vraiment épuisé de tout ce qui s'est passé. Même s'il y a eu ce miracle, la pluie est venue, tout ce qu'il a vécu, c'est énorme. Victoire contre les faux prophètes, victoire contre l'incrédulité. Il y a eu cette sécheresse, il a fait ce pas de foi. Mais par-dessus tout, il y a encore la femme du roi Jézabel qui vient le critiquer par derrière et qui même le menace de mort pour se venger. Déjà qu'il est raide et crevé, c'est le truc de trop. C'est le truc de trop. Et là, il part, quoi. Il part se reposer. Et vous savez, lorsqu'on fait un exercice physique, ça fatigue. Si tu fais une longue marche, ou bien que tu cours, ou bien que tu fais un match dans un sport, bah, tu le sens, tu es crevé. Mais c'est pareil spirituellement. Quand tu vis quelque chose de spirituel, même si tu resterais assis sur ta chaise, tu es juste crevé après. On l'a vu des fois dans des moments soit de combat spirituel, ou souvent quand je sens un message qui a un impact que je prêche, moi le dimanche après-midi, je suis crevé, puis je le sens encore lundi, mardi. Il y a un impact quand on s'implique spirituellement. Et là, Élie, il a dû être vraiment, mais puissamment, mais juste crevé, vraiment, totalement. L'impact spirituel, quand on s'investit, on met tout notre être, corps, âme, esprit dans quelque chose. Il n'en peut plus, il s'effondre, il est vidé. Et c'est là qu'on arrive à 1 roi 19, où on va voir un autre visage d'Élie. C'est justement cet homme qui est à bout, il est à bout. 1 roi 19 nous dit, voyant cela, Élie se leva pour sauver sa vie. Il s'en alla dans le désert, comme j'ai dit avant. Il s'assit sous un genêt et il demande la mort. C'en est trop maintenant, Éternel, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et il s'endormit sous le genêt. Il se repose. Ça, c'est un repos. C'est bien d'un côté, après tout ce qu'il a fait, mais c'est un repos par défaut. Pour moi, c'est un repos de fatigue. C'est un repos d'épuisement. C'est un repos parce qu'il est à bout, parce qu'il est fatigué. Il n'en peut plus physiquement, il n'en peut plus spirituellement. Il a tout donné et en plus il est attaqué, ça l'épuise. Mais ce repos, il est légitime, c'est normal, c'est humain. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il ne s'est pas juste reposé, mais qu'il est parti à l'écart et il est parti au désert. Il a vécu ce repos dans le désert. Et ce repos par défaut, comme on l'a vu, c'est la grande différence avec le repos en Dieu. Parce que le repos par défaut, en fait, comme on a vu, on débranche la prise. C'est le vide, on ne fait plus rien. C'est partir où il n'y a rien, comme au désert, il n'y a rien, plus rien, on se déconnecte. On connaît ça. Hein. Mais le repos en Dieu, ce n'est pas qu'on se débranche, mais c'est qu'on va se rebrancher. Le repos en Dieu, c'est que, alors bien sûr, on se déconnecte peut-être du boulot ou des choses à faire, mais on va se brancher à Dieu. On va se connecter. Et le repos, c'est d'Élie, c'est de partir au désert où il n'y a rien. Mais le repos, selon Dieu, c'est ce psaume le plus connu du monde, le psaume 23, où il est dit « Mais Dieu me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. » Ce n'est pas dans le désert, mais c'est aussi du repos, mais c'est un autre repos. « Et il me dirige près d'une eau paisible et il me redonne des forces. » Il me conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Et quand tu vis ce repos-là, tu n'es pas juste encore autant crevé ou plus qu'avant, tu es ressourcé. Et ce n'est pas se reposer de rien faire dans le désert, mais c'est des verts pâturages, là où il y a la vie qui coule, qui régénère, qui donne des forces. Et je suis convaincu qu'il y a repos et repos. Soit tu débranches la prise et tu déconnectes de tout, soit tu viens et tu dois te connecter à Dieu. Et là, il y a une force qui vient, il y a une source, tu es fortifié vraiment. Puis peut-être tu dis, mais moi, maintenant j'ai tellement donné, j'ai enfin les vacances, enfin congé, ce n'est pas le moment que je vais investir ou prendre du temps avec Dieu. Quoi. J'ai juste envie de rien faire. Et je crois que c'est ça ce repos de fatigue qui finalement, on est toujours autant crevé. Mais justement de se dire, mais je vais me ressourcer dans la présence de Dieu. Viens Seigneur, je suis tellement crevé. Tu mets de la louange, tu viens, tu laisses le Seigneur la force. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin de ta vie. Tu te connectes à Dieu, tu lui parles, il te parle. Et il va commencer à te booster, t'amener dans des verts pâturages où cette eau, elle coule. Elle repoue par défaut, c'est le désert, comme Élie. Mais elle repoue en Dieu, c'est l'hiver pâturage. Et c'est la réponse de Dieu. Quelle est la réponse de Dieu à Élie quand il s'est reposé comme ça dans l'épuisement? C'est un repos divin qu'il va lui proposer. Pas juste un repos de fatigue. Alors Dieu, il ne va pas réprimander Élie en disant « Mais qu'est-ce que tu fiches là? T'es raide, pourquoi tu dors? Pourquoi tu te... » Voilà, c'est normal qu'il soit crevé quelque part. Non, mais alors qu'il dort, il y a un ange qui vient, qui va le toucher et qui va lui dire « Lève-toi et mange ». Et Élie regarde et il voit son chevet, il voit un gâteau cuit sur des pierres chauffées ainsi qu'une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Puis j'avais pris une fois, je crois, ce texte dans un message sur le réveil où je disais « C'est quand même incroyable, il y a un ange qui vient, il lui donne à manger, à boire, puis lui il va redormir ». Mais tout à coup, j'ai compris différemment aussi un petit peu ce texte où moi, je me suis dit, mais tiens, après son repos d'épuisement, il va se reposer, mais d'une façon différente, parce qu'il a été nourri en Dieu, il a été abreuvé en Dieu, et là, il va prendre un nouveau temps de repos. Dans sa présence, les anges sont là, la nourriture de Dieu est là, cette eau est là. Il s'est nourri de ce que Dieu lui a donné, et il dort. Et je suis convaincu que ce sommeil-là, il était différent de celui d'avant. Le repos, ce n'est pas mauvais, dormir non plus. On pourrait lui dire, mais arrête de dormir, Élie, arrête de te reposer. Non, mais il se nourrit physiquement et spirituellement aussi, en présence d'anges, et ce n'est pas rien. Mais il va se reposer en Dieu, et c'est un repos qui est nécessaire, mais il est différent. Et c'est un repos qui va le régénérer, qui va le réparer, qui va le restaurer de ce qu'il a vécu, et qui va le fortifier pour la suite. Et c'est là qu'on voit la différence entre repos et repos. Et les versets 7-8 nous disent que l'ange de l'Éternel vint une deuxième fois, le toucha et dit « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Et Élie, il va manger, il va boire, il va se lever, et il va marcher sans arrêt 40 jours et 40 nuits, jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Il a vécu un repos selon Dieu, il est nourri par Dieu, et là il a comme une force surnaturel. C'est pas juste un repos style arrêt d'activité, mais il va se nourrir en Dieu. Et pour moi, c'est tellement parlant pour montrer que le vrai repos, c'est pas juste le repos de fatigue ou t'arrêtes simplement, mais c'est se reposer en étant nourri en Dieu. C'est se reposer en étant nourri en Dieu. Et ensuite, comme Élie, dormir, se reposer avec lui, en lui, puis encore se nourrir, ça va permettre à Élie de tenir bon. C'est ce qui va lui permettre d'aller sur la montagne et de rencontrer Dieu, d'accomplir sa mission, d'entrer dans son appel, de ce que Dieu a prévu pour lui et de tenir surtout dans la durée. Ça me parle tellement. Et je pense que leur peau de fatigue, leur peau par défaut, c'est un truc qui nous colle un peu tous à la peau, quoi. Mais il y a tellement plus à découvrir dans un repos quand on le fait avec Dieu, quand on l'inclut. Et je me prêche toujours à moi-même quand je prêche, mais j'ai envie de rentrer dans une nouvelle dimension dans mes jours off, de congés ou de vacances. Mais souvent, pendant mes vacances, c'est quand même là que je vis mes moments les plus forts avec Dieu. Souvent. Parce que tu es là tout à coup, même si tu as des activités un matin, tu es là, tu prends un temps particulier avec Dieu et Dieu vient se révéler. Et il nous donne dans un repos vraiment de se révéler à nous. Et je me dis que l'été qui vient, il est propice. Il est propice à ça, l'été qui vient. Et tu peux passer l'approche. Ah ouais, c'était bon, il était là. Tu peux revenir en arrière. Voilà. Pour pas juste débrancher la prise avec un repos de fatigue, mais te la brancher en Dieu, de vivre des temps de qualité, mais sois intentionnel aussi pour prendre peut-être un bon livre avec. Un livre, bien sûr, on peut lire des romans, mais prends peut-être un bon livre chrétien. Dis-toi, je veux lire un livre de la Bible aussi, je me fais ce challenge de lire tel livre de la Bible. Je vais prendre des temps où des fois, je me fais une playlist de louanges pour mes vacances. Prends ça dans tes valises, réserve-toi des temps pour ça. Et le repos de Dieu, il a une vertu de réparation. On connaît l'expression « un sommeil réparateur ». Un sportif, quand il se repose après un grand effort, son corps, il n'est pas inactif pendant qu'il dort. Mais les tissus qui ont été mis à l'épreuve vont se réparer. Tout son être se régénère. D'ailleurs, ceux qui font de la muscule, les muscles qui ont été blessés vont se réparer puis prendre du volume. C'est ça, pendant les temps de pause, ça se répare. Et spirituellement, c'est pareil. Également psychiquement, le repos en Dieu, il vient guérir nos cœurs, il vient guérir nos émotions mis à contribution, il vient raviver et aiguiser notre esprit, notre discernement. Et je crois vraiment que le repos en Dieu, et c'est là qu'on voit la slide que vous avez vue avant, le repos en Dieu, il est réparateur, mais il est aussi préparateur. Il est préparateur si on laisse la puissance de Dieu, si on laisse la puissance de Dieu venir se manifester en nous. Et on le voit avec Élie, son repos, il était d'abord un repos de fatigue. Ensuite, il a eu ce repos vraiment réparateur. Et par la puissance de Dieu, il a pu marcher 40 jours, 40 nuits. Il a pu rentrer dans son appel. Il a pu transmettre plus loin le flambeau. Déjà, il a pu rencontrer Dieu à Horeb, sur la montagne. Il a ensuite pu transmettre le flambeau à Élisée. Et je suis convaincu que le ministère puissant d'Élisée, qui était deux fois plus puissant qu'Élie, il ne s'est pas juste joué quand Élisée il a attrapé le manteau. Quand Élie est parti au ciel, il s'est joué parce que Élie, il a été nourri en Dieu, il s'est reposé et il a pu communiquer plus loin le flambeau aussi. Et on a vu avec Élie, le repos en Dieu fortifie, répare, guérit. C'était mon troisième point qu'on a vu maintenant, que je donne le titre maintenant. C'est vraiment un repos qui booste, qui fortifie, qui nous donne aussi d'aller vraiment dans la mission qu'on a dans nos vies. Et en méditant sur le sujet, Dieu m'a mis à cœur un autre exemple biblique qui est vraiment frappant, qui montre que le repos, il n'est pas juste réparateur, mais vraiment aussi préparateur. Quand tu prends du repos avec Dieu, il te prépare pour quelque chose. Et de s'arrêter, soit dans un jour par semaine vraiment, ou dans des vacances que tu vis avec Dieu, il va te préparer pour rentrer dans des choses nouvelles. C'est l'exemple d'Esther. Il y a tout un livre de la Bible qui parle d'elle. Et à la base, en hébreu, elle s'appelle Hadassa, c'est ça son vrai nom, qui signifie myrte, on en reviendra après, c'est un buisson. Mais c'est lorsqu'elle deviendra reine que le nom perse d'Esther, qui veut dire étoile, va lui être donné. Mais avant qu'elle soit choisie reine, il y a toute une préparation. Et la Bible nous dit qu'Esther a été préparée pendant 12 mois avec des parfums et de l'huile. On voit ça dans Esther 2, 12. Et à cette époque, ça incluait des bains parfumés, des soins, des massages. Ce n'était pas juste une routine de beauté, c'était une mise à part, un temps de transformation intérieure et extérieure. Imaginez une année de spa, une année de bains parfumés, de soins et de massages. Mesdames, est-ce qu'il y en a qui apprécieraient ? Si déjà c'était un jour par an, ce serait pas mal. Mais là, c'est une année entière. Du repos, si ce n'est pas du repos, ça c'est quoi ? Je ne sais pas. Hein. Si c'est ça, c'est vraiment. Mais ça, elle a vécu pendant un an. On pourrait se dire, mais elle fait quoi là ? Elle est en train de perdre. C'est un an de perdu. Hadassa, une année de spa, qui allait, en fait, ça allait la préparer à rencontrer le roi. Elle qui était orpheline, puis adoptée par Mardoché, puis ensuite enlevée pour être amenée à la cour du roi. Je pense qu'elle avait des choses à guérir, à vivre en elle. Et cette année, ça a été un baume, non seulement pour son corps, mais aussi pour son cœur. Et incontestablement, je suis convaincu, un baume pour son esprit. C'est elle qui va se lever, l'esprit clair, pour sauver ensuite son peuple. Son peuple, elle verra les choses bien, avec audace. Parce qu'elle a vécu ce repos. Et ensuite, je vais dire, c'est une bombe après. Elle y va, elle a de l'audace, elle va devant le roi, elle risque sa vie pour sauver tout son peuple. Et ce repos, ces bains l'ont non seulement lavé, régénéré, guéri aussi de son vécu, mais ça l'a préparé à rencontrer le roi. Et il est même dit que pendant cette année, c'est dans la Bible, que pendant 6 mois, c'était spécifiquement des bains d'huile, de myrrhe. Elle a baigné dans l'huile, comme on dit, baigné dans l'onction pour rencontrer le roi. Et c'est tellement parlant, pour moi c'est le véritable repos. C'est pas juste un repos où tu fatigues, où tu arrêtes de faire des choses, mais un repos c'est comme si tu te dis, ben voilà, on appelle ça des fois, on met de la musique, on appelle ça du soaking, tremper dans la présence de Dieu, mais c'est ce qu'elle a fait, elle a soaké, elle a trempé dans l'huile, mais spirituellement c'est comme si tu dis, ben je me repose dans la présence de Dieu, dans l'onction de Dieu, et ça va me permettre véritablement de rencontrer le roi. C'est ça le repos que moi j'ai envie. C'est que je vive un temps de repos qui me prépare à vivre une intimité avec Dieu plus grande, d'avoir une plus grande onction et puis de rencontrer Dieu d'une façon nouvelle. Un repos pour rencontrer le roi qui vient réparer ma fatigue physique, et je pense qu'on en a tous besoin, guérir mes bobos physiques et plus intérieurs et autres peut-être de la vie de tous les jours, mais aussi me baigner dans l'onction pour rencontrer en personne le roi des rois et vivre une révélation. Tu te dis, mais pendant cet été, j'ai envie de vivre une révélation puissante, une rencontre avec Dieu comme jamais j'en ai vécu. Alors, pour que ça se passe, il faut vivre un temps de repos où tu laisses vraiment simplement la présence. Tu te dis, mais j'ai envie de me baigner dans cette onction, dans cette huile. Un repos spirituel où Dieu travaille en profondeur en nous. Pas seulement un temps où on ne fait rien. Ce n'est pas un temps Un repos par défaut, un temps perdu, mais c'est un temps qui est investi. Un investissement qui rapporte, où l'onction de Dieu, elle touche notre être. Et en trempant dans l'onction, notre être entier, il est oint, puis il va dégager l'odeur de cette huile, de ce parfum dans laquelle on a été. Et je crois que c'est notre appel. À un moment donné, tu vas dégager. Non seulement tu t'es reposé, mais tu vas sentir dans quoi tu t'es reposé. Et je pense que si tu t'es reposé devant Netflix pendant 3 semaines, c'est peut-être ça que tu vas raconter. Mais si tu as vécu des temps forts avec Dieu, des expériences, tu as rencontré Dieu, tu as vécu des choses, même si tu disais rien, ça se dégage de toi, tu vas sentir le frais. Ça va se dégager de toi, je suis convaincu. Je me suis reposé et je sens le frais avec la vie de Dieu en moi. Et c'est exactement ça que Hadassa a vécu. C'était sa destinée, comme on l'a vu. Hadassa, qui signifie myrte, et si vous me permettez cette petite parenthèse, myrte, c'est un arbuste qui produit des baies, qui possède des propriétés antiseptiques, cicatrisantes, anti-inflammatoires, tonifiantes, stimulantes. Et je me dis, mais moi c'est ça que j'ai envie. J'ai envie, comme Hadassa, de dégager un parfum qui va amener quelque chose d'anti-inflammatoire, qui va sanctifier, qui va amener la vie, la guérison des plaies autour de moi. C'est l'onction de salut de Jésus. C'est ça, finalement. L'odeur qu'elle avait, c'était cette même onction qu'avait Jésus, qui sauve, qui délivre, qui sanctifie, c'est-à-dire qui désinfecte les plaies du cœur, du corps, etc. Et c'est cette onction-là que Hadassa, elle l'a trouvée comment ? Dans le repos. Elle a investi une année dans un temps de spa spirituel. Et s'arrêter, ce n'est pas juste ne rien faire. S'arrêter, mais c'est se réserver des moments de spa spirituel et tremper dans l'onction. Une onction qui va régénérer, qui va nous guérir, qui va nous sanctifier, qui va nous préparer à rencontrer le roi. Mais aussi une onction, un parfum qui va se dégager autour de nous. Tout ça en Dieu. Et c'est le pasteur Joseph Prince qui a dit « Le repos n'est pas l'inactivité, mais c'est une posture intérieure de recevoir Jésus. » Tout est accompli depuis la fondation du monde. Notre seul effort, c'est de rentrer dans ce repos. Et s'il y a un verset qui, pour moi, qui résume un peu ce message ce matin, c'est le psaume 46, verset 11, qui dit « Arrêtez, arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. » C'est ça le repos. C'est s'arrêter, mais pas seulement s'arrêter. C'est s'arrêter et reconnaissez que je suis Dieu. C'est-à-dire qu'on arrête tout, on se déconnecte, on va se brancher en Dieu. On reconnaît qu'il est Dieu. Et là, on va être complètement ressourcé dans tout notre être. D'ailleurs, ce mot « arrêter » Rapha veut dire relâcher, laisser aller. Et ce psaume, c'est vraiment une description du repos, du lâcher prise. Lâche ce que tu fais, diminue la charge, lâche prise. Tu déconnectes du boulot pour mieux te connecter en Dieu. Alors, je ne vous dis pas que les vacances ou bien le jour de repos dans la semaine, il faut juste prier. Ce n'est pas ça mon message aujourd'hui. Je suis le premier qui aime bien me reposer, faire une grillade, aller à la plage, visiter des choses. Profiter de la mer, profiter de la montagne, profiter des bons repas, profiter de faire des visites, profiter de rencontrer des gens. Mais il y a repos et repos. Et le repos qui régénère et qui fortifie, c'est le repos où on branche la prise en Dieu, où on a des temps intentionnels, où on se réserve des moments où on trempe dans l'onction. De façon intentionnelle, on va prendre du temps avec Dieu. Et là, je vais terminer, c'est mon dernier point, mais comme j'aime toujours le faire, j'aime finir avec Jésus. Une paix dans le repos qui va te donner une autorité. Et le repos, ce n'est pas l'absence d'agitation, ce n'est pas l'absence de travail, ce n'est pas l'absence de choses à faire, ce n'est pas l'absence de contrariété, parce qu'on n'en aurait peut-être pas souvent du repos, si c'était l'absence de toutes ces choses. Et justement, dans le monde actuel, qui est en souffrance de repos, avec l'avalanche d'impulsions, d'informations, un monde à 200 à l'heure, d'ailleurs, ça ouvre la porte à plein de pratiques où les gens ils ont tellement marre qu'ils font le vide et ils s'ouvrent à n'importe quoi, finalement. Mais le repos en Dieu, c'est une paix, c'est la faculté d'être au-dessus de ces choses-là. Parce qu'on ne peut pas juste aller comme un moine et plus rien faire, plus travailler, plus de contrariété, plus de paiement, plus rien, puis on est là juste avec Dieu dans le repos. Non, mais c'est un état d'esprit où on est branché à Dieu et ces choses de tous les jours, elles ne nous tirent pas constamment en bas. C'est la faculté d'être au-dessus de ça. Et Jésus, dans le bateau, il était dans le repos. Il y avait une tempête. Et à un moment donné, les éléments dans cette histoire, elles se déchaînent. Et on peut comparer ça vraiment aux circonstances qu'on peut vivre, où tout s'aligne pour amener de l'anxiété, pour amener de la peur. Et c'est ça qu'ont vécu les disciples. Dans ce cas, c'était des vagues, le vent, l'eau qui rentre dans le bateau. Tu te dis, mais combien de temps je vais tenir encore? J'ai bientôt là, je vais me noyer, quoi. Peut-être que vous avez déjà senti ça, quand vous avez l'impression que toutes vos circonstances, elles vous tirent vers le bas, puis que vous sentez que vous allez peut-être vous noyer. Et malgré ça, Jésus, il reste en paix, il dort, il est dans le repos. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas entendu ce qui se passait. Ce n'est pas parce qu'il a un sommeil de plomb. Ce n'est pas parce que le matelas, c'était un libico, je ne sais pas quoi, non. C'est pas non plus parce que c'est un immense bateau de croisière qui est plus grand qu'une ville presque, comme on voit maintenant. C'est, je pense, une de ces barques pour une vingtaine de personnes, etc. Donc même s'il dort à l'avant, comme c'est mis, il a dû l'entendre. Il est mis, Marc 4, qu'il s'éleva un grand tourbillon. Un tourbillon, qu'est-ce qu'on appelle quand le météorologue il parle d'un tourbillon? C'est un peu une tornade. Hein. Et les vagues se jetaient dans la barque et Jésus dormait à l'arrière, ouais, c'est à l'arrière, sur le coussin. Imaginez, quoi, c'est une tornade, les vagues qui commencent à rentrer dans le bateau. Et si dans un tel bateau, dans des telles circonstances, tu n'es pas dans un repos intérieur, bah, tu vas te réveiller. En plus, les disciples, ils étaient en mode panique, ils devaient hurler, « Mais rentre les voiles, tire ça, non, à gauche, à droite !» Ça devait être quelque chose, quoi, si vous avez vu The Chosen. Enfin, je n'ai pas vu cet épisode-là dans The Chosen, mais ça doit être, quand on connaît les disciples, comment ils sont. Mais si Jésus peut dormir, c'est qu'il a une paix intérieure. Qu'il ne se fait pas déloger, qu'il ne se fait pas déloger par les circonstances. Et moi, j'ai envie de vivre ça. Il vit le repos, pas juste le repos dans le sens dodo, mais un véritable repos intérieur. Parce que combien de fois je vous ai parlé de ce verset dans Jean 5, que le Fils faisait que ce qu'il voyait le Père faire. Il a une telle connexion avec le Père, qu'il sait ce que le Père pense, il sait qui il est, il sait ce qu'il fait, qu'il a une telle confiance, qu'il sait que Dieu est là, qu'il s'occupe de tout. Et puis qu'il va pourvoir, puis qu'il n'a pas besoin d'avoir peur de se noyer dans les circonstances de sa vie pour prendre cette image du bateau. Et il dira d'ailleurs dans Jean 10, 29, « Mon Père est plus grand que tous, et personne ne peut arracher quoi que ce soit de la main du Père. » Il connaît ça, que personne ne peut arracher quoi que ce soit de la main du Père. Et il en est convaincu, et ça lui donne une paix et une autorité, vraiment, sur les circonstances de la vie. Et si ça lui permet de vivre ce repos, c'est une unité avec le Père. Et d'ailleurs, dans la même optique, Jésus dira dans Jean 14, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, mais je ne vous la donne pas comme le monde le donne, parce que c'est justement une paix malgré les circonstances. » Et c'est pour ça qu'il pourra dire aussi dans Matthieu 11, 28, un verset qui est devenu viral, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. » C'est ça ce vrai repos. Ce n'est pas juste pour se reposer un coup, mais c'est un repos qui est puissant, connecté à Dieu, qui va régénérer ton corps, chaque cellule de ton corps, mais de ton âme, tout ce qui a été lessivé, fatigué, et aussi ton esprit, pour que tu aies de nouveau un discernement aiguisé et la patate pour aller de l'avant dans ton appel. Et c'est Bill Johnson qui a dit, « Vous n'avez autorité sur la tempête que lorsque vous pouvez y dormir. » Tu as autorité sur la tempête que lorsque tu peux y dormir. C'est-à-dire que tu es tellement dans la paix que les circonstances qu'il y a autour de toi, tu sais qu'elles sont là, elles ne disparaissent pas, mais tu pourrais dormir parce que tu sais que lui, il peut tout faire, malgré ça. Et quand tu peux vivre ce repos intérieur et cette paix, tu as autorité sur la tempête parce qu'elle n'a pas de pouvoir sur toi. Les circonstances n'ont pas de pouvoir sur toi. Le train-train 200 à l'heure n'ont pas de pouvoir sur toi. Donc le repos, c'est parce que c'est pas mes sens, c'est pas ce que je vois, c'est pas ce que je ressens qui m'agite, mais c'est ce que lui me révèle, et c'est en étant connecté à lui. C'est ce qui a permis, et je vais terminer le groupe de louanges, je peux déjà venir, c'est ce qui a permis à Daniel, qui avait été jeté dans la fosse au lion, de dormir. Vous imaginez que Daniel, il a pu dormir dans la fosse au lion. Les lions étaient là, il ne les a pas enlevés, Dieu, mais il a pu dormir. Parce qu'il avait cette foi et cette confiance en Dieu, malgré les circonstances. Et en résumé, le repos, je crois qu'on peut dire que le repos, c'est être intentionnel, en se réservant des moments, des jours off dans ta semaine. Prends, chéris ces moments, vraiment. Honore le repos. Aussi, j'aimerais aussi le dire, c'est une mini parenthèse, honore le repos aussi en te couchant le soir. Parce que tu peux aussi comme bafouer ou déshonorer le repos que Dieu veut que tu vives en n'allant jamais te coucher. Puis après, tu es tout le temps fatigué. Puis tu te reposes, mais tu es quand même toujours fatigué. Et il y a des gens, ils sont toujours fatigués. Mais honore ce repos, puis va dormir aussi. Reconnaître que c'est Dieu qui a voulu le repos, n'est pas du temps perdu, mais un repos. Tu dis, Seigneur, je viens me reposer, viens me donner, viens me fortifier. Et tu le vis avec Dieu, ça change ton jour d'après. Et aussi de se connecter au Père, en nous donnant de vivre le repos. Et pour terminer, j'aimerais vous donner juste cette parole très courte que j'ai vraiment ressentie de la part de Dieu, qui disait que le réveil, le réveil est pour ceux qui se lèvent et qui marchent dans leur appel, ça on connaît. Mais la pensée de Dieu, c'est aussi pour ceux qui marchent, qui continuent à se lever et à marcher. C'est ceux qui vivent le repos en moi, pas c'est ceux qui continuent. Et moi, j'ai vu tellement de gens être appelés par Dieu, se lever et finalement ne pas continuer la course. Et ce qui compte, c'est d'être comme Paul qui a achevé la course. Et pour pas que tu finisses épuisé, en burn-out, ou que finalement tu aies laissé tomber les prophéties ou l'appel qu'il y avait dans ta vie et sur ta vie, honore le repos de façon hebdomadaire. Honore le repos avec des temps de qualité avec Dieu. Honore le repos quand tu as des vacances, en le vivant avec lui. Prends dans tes valises un livre, prends dans tes valises ta playlist de louanges, prends dans tes valises la Bible et de façon intentionnelle, prends du temps avec Dieu. Comme Esther, baigne dans cette huile, baigne dans cette onction. Soak, trempe dans sa présence. Amen. Alléluia, Seigneur.